Vous écoutez RTL.
RTL, il est 8h. RTL Matin, Bernard Poiret et le journal de Yann Bouchery.
Bonjour Yann.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Les positions des deux clans Hallyday apparaissent toujours irréconciliables et ce à l'issue de l'audience d'hier au tribunal de Nanterre.
Dans ce journal également, le plus grand campement de France sous le périphérique parisien. Plus de 1200 personnes, en majorité des migrants, se sont installées porte de la Villette. Journée de mobilisation des salariés de Carrefour. Beaucoup de magasins seront bloqués aujourd'hui un peu partout en France. L'inquiétude des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La trêve hivernale s'achève aujourd'hui et ils sont donc en théorie expulsables. Et puis les sports, le PSG sous pression avant la finale de la Coupe de la Ligue ce soir contre Monaco.
Mais tout d'abord, cette histoire très réjouissante de plombier ingénieux dont l'innovation pourrait éviter de gros gaspillages d'eau potable.
Oui, il s'appelle Sidi Drissi et il travaille à Rubel en Seine-et-Marne. Il a eu l'idée de recycler l'eau usagée de la douche en installant un récupérateur de 50 litres dont l'eau filtrée est ensuite réorientée vers la chasse d'eau des toilettes. L'installation coûte de 600 à 1000 euros en fonction de la maison, mais elle est vite rentabilisée. Bettina de Guglielmo est allé à la rencontre d'une cliente qui vient de s'équiper.
Aurélie vit avec son mari et ses deux enfants dans une maison à Melun et ce bruit, elle l'entend très souvent.
J'ai une petite fille de 3 ans qui commence à utiliser les toilettes, qui tire à la chasse relativement souvent. Le plus grand qui passe des heures sous la douche. Et là, on se rend compte que vraiment, on jetait beaucoup d'eau. Alors que là, on s'autogère, en quelque sorte.
La famille est équipée du système depuis 6 mois. Le constat est probant.
Notre consommation d'eau a été divisée par 2. Je pense qu'on a fait une bonne économie en 6 mois, au moins de 250 euros. Facilement.
Plus de 80 maisons sont équipées de ce réservoir relié aux toilettes. Une fierté pour son initiateur, Sidi Drissi, plombier depuis 10 ans en Seine-et-Marne. Il ne comprend toujours pas comment, en 2018, 9 litres d'eau potable peuvent être gâchés à chaque chasse d'eau.
Quelle personne pourrait jeter un pack d'eau dans les toilettes une fois avoir uriné ? Personne. Pourtant, tout le monde le fait. C'est une aberration. J'ai pas déposé de brevet. Hein. Moi, je fais ça pour la planète. Je pense qu'il va y avoir des enfants derrière nous et il faut penser aussi à eux.
Sidi veut aller plus loin. Dans une vidéo, il interpelle le gouvernement pour que ce système devienne obligatoire dans toute nouvelle construction.
Le reportage de Bettina de Guglielmo en Seine-et-Marne pour RTL.
Espérons que M. Hulot va entendre ce reportage, pourquoi pas. Concernant l'héritage de Johnny Hallyday, il y aura de l'eau à couler sous les ponts, hein, sans aucun doute, avant que les deux clans trouvent un terrain d'entente.
Hier, au tribunal de Nanterre, David et Laura, les premiers enfants du chanteur ont à nouveau demandé le gel des avoirs de leur père et un droit de regard sur son ultime album. Jean-Alphonse Richard, les deux parties ne se sont pas épargnées devant des juges impassibles qui vont prendre leur temps pour trancher.
Au tribunal, effectivement, de décider désormais quel sort il réserve à la fortune de Johnny. Suspense total. À l'audience, le clan de Laura et David a décrit une emprise de Laetitia sur le patrimoine du chanteur et exprimé une crainte. Celle que tous les biens, y compris les maisons de Los Angeles, de Marne-la-Coquette ou de Saint-Barth, soient placés dans le fameux trust américain. Karine Piccio, l'avocat de David Hallyday, est affirmative. Si demain, tous les actifs de Johnny sont versés dans le trust, c'est terminé. On ne pourra plus rien faire. Tous les biens seront à la portée de Laetitia. Un système qui ressemblerait en fait à un immense coffre-fort dont seule la dernière épouse de la star aurait les clés. Un fantasme, assure de son côté Maître Aslani, l'avocat de Laetitia. Il n'y a pas de côté occulte, il n'y a pas de secret. On ne veut rien cacher du tout, c'est ça la réalité, martèle-t-il. Les trois juges sont restés impassibles devant ces passes d'armes où chacun, à tour de rôle, a revendiqué son attachement à Johnny et à son œuvre.
Jean-Alphonse Richard, la tristesse de la sœur de Nordal Lelandais, 2 jours après les aveux de son frère dans le meurtre du caporal Arthur Noyer. Eh bien, on apprend qu'elle a écrit aux parents de la petite Maëlys un courrier daté du 7 mars et transmis à leur avocat, maître Fabien Rajon. Il s'agit de la première prise de contact d'un membre de la famille Lelandais avec celle de la petite victime. Alexandra y fait part de sa douleur et de sa compassion envers les parents de la fillette assassinée par Nordal Lelandais. Il est le plus vieux prisonnier de France. Michel Cardon est incarcéré depuis plus de 40 ans après sa condamnation à perpétuité pour meurtre. C'était en 1977. Le détenu âgé aujourd'hui de 67 ans va bénéficier d'une libération conditionnelle à compter du 1er juin. Une décision du tribunal d'Arras qui a décidé son placement dans un centre de réinsertion dans le Val-d'Oise.
Le centre d'hébergement de la Porte de la Chapelle ferme ses portes aujourd'hui même. C'est à Paris, bien sûr. Et le problème des migrants s'est déplacé sans aucunement être être réglée.
Au total, le centre aura permis d'héberger 25 000 demandeurs, mais depuis quelques semaines, un nouveau campement grossit dans l'indifférence. 1266 personnes ont été décomptées cette semaine lors d'une maraude sous le périphérique Porte de la Villette. Les tentes sont serrées sous les piles des ponts avec des problèmes récurrents d'hygiène. Le reportage sur place de Sinamir.
Dès son arrivée, au milieu des centaines de tentes agglutinées, la maire de Paris est interpellée par un jeune Somalien de 22 ans. Les maladies, ce seul pont pour toi et les centaines de personnes qui vivent sur ces berges comme quotidien, Abdi décrit tout. Quelques minutes plus tard, ce sont des riveraines, les mamans de la crèche voisine, qui viennent à leur tour faire part à Anne Hidalgo de leurs inquiétudes.
Nous, c'est ce qu'on voit, nous, en étant habitants.
C'est juste inacceptable. En tant que citoyenne, on vit dans une démocratie, donc on aimerait que ces gens-là vivent déjà plus décemment et que nous, en tant qu'habitantes, qu'on ne se sente pas dans l'insécurité puisque nous avons peur.
C'est ce qu'on a dit.
Je suis allée voir Édouard Philippe, le Premier ministre, et je l'ai aussi interpellé sur la situation ici. Il y a plus de 1000 personnes. La semaine prochaine, il y en aura sans doute 1500, 2000. La semaine suivante, 3000. Donc la question très concrète que j'ai posée, c'est à quel moment on met ces personnes à l'abri. La rue n'est pas un endroit où l'on puisse vivre. Personne ne peut accepter ce chaos. Je demande qu'il y ait des solutions d'urgence qui soient trouvées. Je sais bien qu'il y a le débat et qu'on m'oppose le fait qu'il y aurait un appel d'air. Mais les gens sont là.
Un débat d'autant plus politique et polémique à l'approche de l'arrivée en début de semaine prochaine du projet de loi Asile et Immigration en commission des lois.
Le reportage de Sinamir, Porte de la Villette pour RTL. Le mouvement de grogne s'amplifie chez les salariés de Carrefour. Beaucoup de magasins seront bloqués ou fermés aujourd'hui en cause. Le plan de suppression de milliers d'emplois annoncé en janvier par la direction, mais aussi le projet de passage en location-gérance de plusieurs hypermarchés. Et puis également la dégradation des conditions de travail et la baisse du pouvoir d'achat. C'est une journée d'action qui sera probablement très suivie en ce samedi de week-end de Pâques, qui est en général la deuxième plus grosse journée en termes de chiffre d'affaires après Noël.
Et de cette grève, nous reparlerons plus longuement dans un petit quart d'heure avec Rodolphe Bonnat. Ce qui sera notre invité, c'est un très bon spécialiste de la grande distribution en France.
Prenez vos précautions si vous devez rentrer lundi en train. La SNCF conseille en effet aux voyageurs d'arriver à destination avant 19h, l'heure à laquelle commencera la grève, qui aura lieu aussi mardi et mercredi. Hier, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a précisé que les dispositions de la réforme relative à l'ouverture de la concurrence ne feraient pas l'objet d'ordonnances, sans calmer néanmoins la colère des syndicats.
Alors que la trêve hivernale prend fin aujourd'hui, des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes vont manifester ce samedi à Nantes.
Ils dénoncent d'éventuelles expulsions et promettent une réaction unitaire si elles venaient à se réaliser. Ils veulent d'ailleurs assigner la préfecture de Loire-Atlantique au tribunal administratif pour contraindre l'État à confirmer ou infirmer l'existence de procédures à leur encontre. L'inquiétude gagne du terrain, notamment chez ces occupants illégaux, les Camille, l'un d'entre eux, l'un des porte-parole de la ZAD au micro-RTL de Patrice Gabart.
Oui, évidemment, les gens sont extrêmement inquiets. Bon, ça fait des années qu'on vit avec cette menace. En même temps, il y a une discussion qui est en cours, mais il y a quelque chose qui pose énormément de problèmes, c'est qu'on discute avec des gens qui, en même temps, disent « on va venir tout détruire chez vous sans même respecter les bases du droit ». Donc, effectivement, c'est une situation qui est extrêmement tendue et menaçante pour nous, qui n'est pas du tout agréable à vivre et qui, encore une fois, qui aura peut-être, d'ici quelques jours, des conséquences dramatiques. C'est-à-dire des gens qui perdent leur maison, qui perdent leurs espaces d'activité, qui perdent leurs liens, qui se retrouvent dans une situation de tension renouvelée. Je veux dire, on peut se retrouver demain de nouveau avec des blessés, avec des espaces détruits, etc. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement menaçant et c'est absurde. Et effectivement, on est extrêmement déçus et inquiets sur la suite, sur la question des expulsions des habitats.
Comment la situation là-bas à Notre-Dame-des-Landes peut-elle tourner dans les prochaines heures et les prochains jours? Je poserai la question entre autres à Françoise Verchère tout à l'heure à 9h10. C'est l'un des membres très actifs de l'association des élus qui s'opposent à l'aéroport. Elle sera l'invitée de la rédaction donc.
L'actualité à l'étranger, un vendredi meurtrier hier dans la bande de Gaza. 16 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés lorsque des rassemblements ont dégénéré avec les forces de sécurité israéliennes et ce au premier jour d'une protestation de 6 semaines de nouveau nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui. Et puis, consternation à Buckingham Palace. Le beau-père de Pippa Middleton, la sœur de Kate et épouse du prince William, a été mis en examen pour viol sur mineur. Il a été placé en garde à vue mardi à Paris. Une plainte a été déposée en 2017 contre lui par une de ses nièces pour des faits qui remonteraient à 1999.
Ouvrons la page des sports, Yann Bouchery. Comme l'an dernier, la finale de la Coupe de la Ligue, c'est du football hein, bien sûr, opposera ce soir Monaco au Paris Saint-Germain.
Et Paris s'était imposé 4-1. Cette année, la confrontation s'annonce peut-être plus équilibrée alors que le PSG traverse depuis son élimination en Ligue des Champions une zone de turbulence. La blessure de Neymar, qui reviendra dans 3 semaines dans la capitale, les supputations sur le nom du nouvel entraîneur, les états d'âme de certains joueurs, tout ça, ce sont des faux problèmes, selon Marco Verratti, le milieu de terrain au micro RTL de Denis Grandjean.
Non, moi, sincèrement, je pense qu'il est beaucoup agité, surtout de l'extérieur. Quasiment tous les jours, j'écoute des choses qui ne sont pas du tout vraies. Je vois que sur Paris, il y a une grande pression. Ça, c'est aussi joli parce que ça veut dire qu'ils voient nous comme des grands joueurs, comme une grande équipe, que s'ils ne gagnent pas tous, ça ne se sent pas bien. Mais je pense que dans le championnat, on a fait un très grand parcours. On est dans les deux coupes. Après, bien sûr, nous aussi, tous les mois, il a envie d'arriver à la finale Champions League. Gagner un trophée comme ça est important. Il faut travailler avec tranquillité, il ne faut pas être en obsession. Je pense qu'un jour, il arrivera sûrement un trophée très important ici à Paris parce que les clubs le méritent. Avec nous ou sans nous, ça, on va voir, mais je pense qu'il y a un projet très important ici et il faut continuer comme ça.
Et soirée spéciale évidemment sur RTL de 20h à 23h au minuit en cas de prolongation. On joue aussi aujourd'hui la 31e journée de Ligue 1 à 17h. Marseille se rend à Dijon. Les autres matchs auront lieu demain après-midi. En Ligue 2, la 31e journée hier a été marquée par un envahissement de terrain au Havre après la défaite à domicile du HAC 2-0 devant Quevilly. Les autres résultats, victoire de Nîmes devant Valenciennes 1-0, d'Ajaccio face à Clermont 2-1, de Tours contre Lorient 3-1. Idem pour Auxerre face à Bourg-en-Bresse, un partout pour Orléans-Brest et Niort-Sochaux. 0-0 entre le Paris FC et le Gazélec Ajaccio. Et puis à 15h, Nancy reçoit le leader Reims. Un mot de rugby, quart de finale de Coupe d'Europe. La Rochelle s'est logiquement inclinée 29-17 hier au Pays de Galles chez les Scarlets. Gros défi pour Toulon en déplacement aujourd'hui à 16h15 au Munster en Irlande.
Ah oui, gros défi, sans aucun doute. Merci beaucoup Yann Bouchery, c'était le journal de 8h. Yann revient à 10h et bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez sur RTL. À suivre, la dernière minute de Bernard Glass pour le quintet de Chantilly. Et puis, qui l'eût cru, Florian Gazan est le petit père des peuples, autrement dit Staline. Mercredi, sur les écrans, La mort de Staline. Film anglais apparemment génial, d'après ce que j'en ai lu. A tout de suite.